La Voix des mots, notre sélection de livres qui s'écoutent, présentée par Olivier sur Altitude. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des mots. Et aujourd'hui, on vous présente un livre de science-fiction, Esperanza 64, le premier tome par Julien Santor, et ici lu par Renaud Desdain. Et au lieu de vous parler d'abord du résumé, eh bien, le mieux c'est de vous faire écouter un extrait qui vous donne déjà un bel avant-goût de ce qui vous attend.
Le train décéléra rapidement et Neil ouvrit les yeux un peu agacé de s'être assoupi. Il jeta un coup d'œil inquiet à la plateforme des bagages, au milieu du wagon, et se sentit soulagé en reconnaissant sa valise. Elle contenait les 15 kilos d'effets personnels qu'il était autorisé à emmener avec lui sur l'Esperanza 64. Il s'agissait essentiellement d'objets sans la moindre valeur marchande. Mais lorsqu'on sait que l'on va quitter la Terre pour toujours, le moindre album photo, la plus misérable des peluches, un simple caillou, deviennent plus précieux que le plus beau joyau du monde. Neil savait que les vols de bagages dans les trains étaient monnaie courante, à tel point que plus aucune compagnie n'acceptait d'assurer ce risque. Les voleurs étaient très organisés. Ils montaient dans le train et redescendaient à l'arrêt suivant, en subtilisant au dernier moment deux bagages à main, parfois trois quand ils pouvaient aussi s'emparer d'un sac à dos. Ils se rendaient ensuite chez un complice pour examiner et trier leur butin. Tout se revendait sur le net, par l'intermédiaire de prête-noms, sauf les objets les plus précieux, les bijoux par exemple, qui étaient amenés à des artisans capables de les transformer pour les revendre ensuite dans des magasins officiels. Le train s'immobilisa et Neil entendit le claquement des portes du sas de la station d'Antoche. L'air fusa, remplissant le sas. L'opération ne dura pas plus d'une minute et le train se remit en mouvement. Les lumières artificielles de la station souterraine illuminèrent soudain les fenêtres de leur wagon et un quai apparut. Ils venaient de sortir du tube dans lequel ils avaient voyagé, porté par des plots magnétiques, dans un vide à 2% à près de 900 km/h. Comme la plupart des passagers du wagon, Neil se leva. Il n'éprouvait pas le moindre stress ni la moindre excitation, même si son arrivée à Antoche était l'aboutissement de 5 années de formation à l'école de l'espace de Nice. Il considérait simplement que les événements suivaient leur cours et que, quelque part, un film se déroulait dont il n'était qu'un acteur parmi tant d'autres. Dans quelques heures, il serait en orbite, à 36 000 km de la Terre, dans le vaisseau Esperanza 64, et après 2 mois d'entraînement dans les fonctions qu'on allait lui assigner, ce serait le grand départ pour l'inconnu. Peut-être qu'à ce moment-là, en voyant s'éloigner la Terre, il ressentirait quelque chose de plus intense. Le vaisseau Esperanza 64, comme ses 63 prédécesseurs, soulagerait une Terre surpeuplée, polluée et aux ressources pratiquement épuisées de 20 millions d'habitants. Il s'agissait du programme Exodus, accepté de gré ou de force par l'ensemble des nations en 2074 et qui avait déjà envoyé dans l'espace plus d'un milliard d'êtres humains. Grâce à lui, en cette année 2092, la Terre ne comptait que 10 milliards d'habitants. Le programme Exodus continuerait encore des dizaines d'années au même rythme, jusqu'à ce que la population terrestre se stabilise autour de 6 milliards d'habitants, chiffre considéré comme étant en parfaite adéquation avec les ressources que la Terre pouvait fournir. Dans le cadre du programme, un vaisseau quittait la Terre tous les 2 mois et demi environ, sans la moindre couverture médiatique, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Pourtant, chacun de ces vaisseaux emportait 20 millions d'êtres humains congelés dans l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius et un équipage de 4000 hommes et femmes capables de maintenir le vaisseau et ses usines et d'utiliser la plupart des technologies connues à ce jour. Les vaisseaux comme Esperanza 64 faisaient songer aux Liberty Ship de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1940. Ils étaient tous parfaitement similaires, conçus pour être rapidement construits, rustiques mais très solides. L'ensemble de l'industrie mondiale était mise à contribution et la standardisation des équipements avait permis d'optimiser les coûts de production. Les éléments étaient fabriqués sur Terre et assemblés ensuite dans un des 9 chantiers spatiaux internationaux en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre. Chaque chantier travaillait simultanément sur 3 vaisseaux, ce qui permettait d'utiliser en permanence les ouvriers robots spécialisés dans chaque étape de la construction. Grâce à la mobilisation mondiale des moyens et des ressources, il fallait maintenant seulement 2 ans pour construire un Esperanza, alors que le premier en avait nécessité presque 6. Neil récupéra sa valise et fit la queue pour descendre du wagon. 3 minutes plus tard, il était sur le quai, attendant comme une centaine d'autres voyageurs que les portes d'accès au niveau supérieur de cette partie de la gare s'ouvrent.
Voici donc un extrait de Esperanza 64, le premier tome par Julien Santor et donc lu par Renaud Desdain. Merci beaucoup d'avoir suivi La Voix des Mots et découvrez donc très vite que cet équipage de l'Esperanza 64 va être confronté à la terrible réalité de l'espace. Attendez-vous à des surprises. Merci beaucoup d'avoir suivi La Voix des Mots et bien sûr, restez à l'écoute. La semaine prochaine, nous verrons ensemble un nouveau livre audio.
Altitude FM.